Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est 8h à Washington, 13h en temps universel. Et nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure avec deux grands dossiers au programme. Le changement de Premier ministre en Haïti à la demande du Conseil présidentiel de transition. On en parle avec le politologue Jacques Nézy dans quelques minutes. Puis nous recevrons l'universitaire Laurie Kenton pour revenir sur les raisons du succès de Donald Trump la semaine dernière et sur l'équipe qu'il est en train de mettre en place. Enfin, l'actualité des Outre-mer françaises. Alex Leveillé, nous irons avec vous en Martinique.
Pour parler de la visite du ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, visite de 4 jours sur l'île où il sera surtout question du problème de la vie chère.
A tout à l'heure. Mais d'abord le journal. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour Anne.
La création d'un État palestinien n'est pas une position réaliste.
Déclaration ce matin du ministre israélien des Affaires étrangères, selon Gideon Saar, un État palestinien serait un État Hamas, je cite, des déclarations alors que d'autres voix dissonantes se font entendre, par exemple l'ancien chef d'état-major et membre du cabinet de guerre, Gadi Eisenkot, dans un entretien accordé à une chaîne de télévision israélienne. Il s'est livré un réquisitoire accablant contre Benjamin Netanyahou, dénonçant des objectifs cachés de la guerre à Gaza et notamment de l'établissement de colonies juives dans l'enclave palestinienne en guerre à Jérusalem, Sami Bouhlefa.
Depuis le début de la guerre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou le répète régulièrement. Israël n'a pas l'intention de recoloniser Gaza. Pourtant, ce qui est constaté sur le terrain est différent, relève Tomer Persico, chercheur israélien à l'université Reichman de Herzliya.
Il y a une volonté claire de certains ministres au gouvernement de réinstaller des juifs à Gaza. Au regard du droit international, il est légitime et même souhaitable de déplacer une population, en l'occurrence les Gazaouis, lorsque des opérations militaires ont lieu. Mais selon ce même droit international, vous devez permettre à ces gens de retourner dans leur maison à la fin des opérations militaires.
Dès le début de la guerre en octobre 2023, Israël a entrepris de vider le nord de Gaza de sa population. Un an plus tard, l'armée a mis un coup d'accélérateur à ce déplacement forcé des civils. Le nord de Gaza est hermétiquement assiégé, sans eau ni nourriture. La population a le choix entre partir vers le sud de l'enclave ou rester et mourir. Une situation alarmante, dénonce le chercheur.
Je crains vraiment que tout cela ait pour objectif de créer à l'avenir des colonies juives israéliennes dans le nord de Gaza. Et je ne sais pas si personnellement je pourrais encore vivre en Israël si mon pays, au lieu de réduire l'occupation, décide au contraire de renforcer l'occupation de la Palestine. C'est une atrocité et j'espère que cela n'arrivera pas.
C'est pourtant bel et bien le plan du gouvernement israélien, confirme Gadi Eisenkot, ancien membre du cabinet de guerre de l'État hébreu. Sami Bouhlefa, Jérusalem, RFI.
Pendant ce temps, ce même ministre israélien des Affaires étrangères avance qu'il y a un certain progrès dans les négociations d'un cessez-le-feu au Liban.
Oui, il affirme travailler à cela avec les Américains. Rien de concret ne nous est parvenu, tempère lui le porte-parole du Hezbollah ce lundi, le groupe chiite qui ne s'attend à aucune proposition de paix prochainement. Dans le même temps, les combats se poursuivent. De nombreux bombardements israéliens ont visé le sud du Liban cette nuit et ce matin. En Syrie, un média officiel fait état de frappes près de Homs, ville proche du nord Liban. Le Hezbollah, lui, revendique des salves de missiles sur des troupes israéliennes en territoire libanais.
Le Kremlin dément tout appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
Alors, coup de fil ou pas coup de fil, le journal américain Washington Post avait pourtant rapporté un premier contact entre le président russe et le futur président américain jeudi soir. La Russie promet maintenant que c'est une pure invention, pas de plan concret pour une telle discussion, a renseigné le porte-parole du Kremlin. Pourtant, que ce soit Vladimir Poutine ou Donald Trump, chacun s'est dit prêt à décrocher, Anissa El-Jabri.
Entre la prudence et une forme de jubilation pas tout à fait assumée, le climat en Russie depuis l'élection de Donald Trump n'est pas encore stabilisé. L'affaire du coup de fil Trump-Poutine fait-elle les gros titres et même démentie ? Elle est présentée comme une avancée positive pour la Russie. Écoutez ce politologue, c'était à la mi-journée sur la première chaîne de télévision du pays.
Sur le principe, il est presque évident qu'un tel appel peut avoir lieu. Vladimir Poutine a déclaré il n'y a pas si longtemps qu'il était prêt à parler à Trump. Et Trump a dit qu'il était prêt à appeler Vladimir Poutine. Le fait qu'il puisse y avoir un tel appel téléphonique entre le futur chef d'État des États-Unis et l'actuel chef de la Fédération de Russie est en soi significatif. Peu importe qu'il y ait eu un appel ou non, Ce qui compte, c'est le fait qu'une telle connexion soit possible. C'était impossible à imaginer avec Biden, par exemple. Il ne pouvait pas se permettre d'appeler Vladimir Poutine pour des raisons purement de réputation pour lui-même et pour son audience. Pour eux, ce serait une trahison de l'Ukraine. C'est pourquoi l'Ukraine a réagi si vivement à cet éventuel appel hypothétique. Ils ont fait comme si cela n'avait pas eu lieu.
Toujours selon le Washington Post, Donald Trump aurait, jeudi, appelé le président russe à ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Samedi soir, Vladimir Poutine, lui, signait le traité de défense mutuelle avec Pyongyang. Le Kremlin, jusqu'ici, s'est montré ambigu sur la présence de soldats nord-coréens parmi ses troupes. Anis El-Jabri, Moscou, RFI.
Vous écoutez RFI Midi. Ce lundi, c'est le top départ de la COP29 à Bakou.
Le financement de l'aide climatique par les pays riches n'est pas une œuvre de charité, prévient le patron de l'ONU Climat, avertissement lancé dans son discours d'ouverture de cette COP29. Le principal enjeu de cette COP, c'est de trouver des sous pour lutter contre le réchauffement climatique, ou plutôt de savoir qui va sortir le porte-monnaie. Pays riches et pays en voie de développement se renvoient la balle. Pourtant, un engagement existe. 100 milliards de dollars par an des pays du Nord vers les pays moins développés. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Du service économie de RFI. Cet accord pris en 2009 n'a pas été tenu jusqu'en 2022.
Oui, la promesse en fait remonte à la COP15 de Copenhague. Les pays industrialisés s'étaient donc engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud sous forme de dons ou plus souvent de prêts. Cela au plus tard à partir de 2020. Mais en 2020, vous le disiez, le compte n'y était toujours pas. Le montant n'a été atteint que 2 ans plus tard. Et bien souvent, c'était de l'argent destiné initialement à de l'aide au développement. Alors que face au Covid, à la même période, les plus grandes puissances mondiales ont réussi à débloquer très rapidement des milliers de milliards de dollars pour faire face à la pandémie. L'engagement pris en 2009 arrive à son terme à la fin de l'année. Il faut donc trouver un nouvel accord. Un groupe d'experts de l'ONU évalue désormais non pas à 100, mais plutôt à 500 milliards par an les besoins. Un montant probablement sous-estimé, mais qui semble pourtant extrêmement difficile à atteindre lors de cette COP. Car après le Covid, justement, la dette a explosé un peu partout dans le monde et de nombreux États cherchent à réduire nettement leurs dépenses publiques.
Justine Fontaine du service économique de RFI.
Et cette COP se tient avec de nombreux absents.
Oui, 200 pays sont représentés, mais tous les chefs d'État ne sont pas là. Par exemple, le président français Emmanuel Macron, absence qui s'explique par des relations nauséabondes avec Bakou depuis 4 ans, et notamment la défaite militaire infligée par l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Souvenez-vous, il se battait pour le Haut-Karabakh, enclave peuplée d'Arméniens, entourée par l'Azerbaïdjan. Écoutez les explications de Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie et expert des relations internationales et stratégiques.
Petit à petit, la France est passée de sa position d'arbitre à une position de soutien aux Arméniens. Et c'est allé évidemment de plus en plus fort, si je puis dire, en septembre 2023, quand les Azerbaïdjanais ont conquis en 3 jours le Haut-Karabakh. Et donc la France a progressivement évolué de sa position d'arbitre à une position nettement pro-arménienne. Et à partir de là, donc, nous avons signé un accord de coopération militaire avec l'Arménie, nous avons livré du matériel militaire non létal, hein, des radars, et donc progressivement, dans l'esprit des Azerbaïdjanais, nous sommes devenus alliés de l'Arménie. Et donc à partir de là, évidemment, les Azerbaïdjanais se sont livrés à un certain nombre de mesures de rétorsion, dont la plus évidente, c'est le soutien aux indépendantistes de Nouvelle-Calédonie.
Propos recueillis par Daniel Valo. C'est la fin de ce journal. On continue avec vous, Anne Cantner.
Merci Théo Renaudon. Dernière partie de RFI Midi sur le continent américain. On va parler politique aux États-Unis et d'abord en Haïti.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti va changer de Premier ministre aujourd'hui. C'est en tout cas le souhait du Conseil présidentiel de transition qui a décidé de limoger Gary Conille, de le remplacer dès aujourd'hui. Selon Radio-Télé Métronome, l'investiture du nouveau chef de gouvernement est prévue cet après-midi après une rencontre dans la matinée avec les conseillers présidentiels. Avec nous pour analyser cette nouvelle crise politique, le politologue Jacques Nézy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du laboratoire caribéen de sciences sociales et vous avez écrit le livre « Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables » qui paraîtra dans quelques jours aux éditions Goutte-Lettres. Alors c'est Alix Didier, fils aimé, qui doit devenir le nouveau Premier ministre de transition. Qui est-il ?
Oui, Alix Didier, fils aimé, c'est un homme d'affaires, originaire du
famille d'investisseurs à Port-au-Prince qui possède des installations, des activités économiques à Port-au-Prince. Il était déjà pressenti pour être Premier ministre, puisque vous savez, à un moment donné, on avait ouvert une liste de candidatures et que parmi les 40, les 150, je crois, candidats, il figurait parmi ces candidats. Donc, il a été choisi, on ne sait pas pourquoi c'est lui, en tout cas. C'est les mêmes conditions obscures qui entouraient la nomination de Gary Conille semblent aussi expliquer le choix de Didier Fissel.
Il a une expérience politique ?
Il n'a pas d'expérience politique. Il a été candidat comme Sénat de la République en 2015, mais depuis, il semble qu'il était toujours tenté par les activités politiques, parce que, comme je vous l'ai dit, il était candidat comme Premier ministre. Et puis, en général, en Haïti, les affaires et la politique se coalisent en général. Donc, sans doute, il y a eu des arrangements entre le secteur des affaires qui a les représentants au sein du Conseil présidentiel de transition et M. Fils-Aimé, d'ailleurs, qui ne vivait pas en Haïti, je crois, qui est rentré hier soir des États-Unis.
Ce changement, c'est le résultat de semaines, de mois même, de tensions entre le Premier ministre et le Conseil présidentiel de transition. Ça n'était vraiment un secret pour personne. Il y a eu plusieurs moments assez délicats pour savoir qui était la tête de la politique haïtienne. Je pense notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Est-ce qu'on sait maintenant ? C'est le Conseil présidentiel qui dirige ?
Oui, le Conseil présidentiel de transition dirige, mais on sait très bien que il y a une sans résultat, on peut le dire, parce que ce Conseil présidentiel de transition, on l'avait souligné d'ailleurs à l'une de vos émissions, c'était une expérience assez difficile à réaliser, une machine très lourde, difficile, puisqu'il y a 9 représentants de différents secteurs, et ces différents secteurs, il faut le souligner, vont concourir aux prochaines élections, ils ont besoin de ressources financières, donc il faut qu'ils nourrissent leur clientèle, donc ils ont besoin des espaces de pouvoir. Et puis ce qui est alarmant, c'est que ce sont des résultats complètement médiocre, inefficace, et pour un coût, quand même, il faut le dire, que chaque conseiller coûte au Trésor public 33 000 dollars américains. Et puis, sans compter le scandale de corruption qui mine les 3 membres. Alors, le problème de Gary Conille avec le Conseil présidentiel de transition, je pense, c'est une interprétation erronée du pouvoir partagé avec le Conseil présidentiel de transition. Pour le Premier ministre interprète la Constitution dans un cadre institutionnel fonctionnel. Or, on est en période de crise et que la Constitution n'est pas le premier cadre de référence, si vous voulez, à la définition du pouvoir du Premier ministre. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, l'expression des luttes pour le pouvoir est très exacerbée entre le Conseil présidentiel de transition et Gary Conille. Gary Conille qui pense n'avoir de compte à rendre à personne, qui a pris toutes ses distances et qui a exercé le pouvoir de façon indépendante, sans rendre compte au Conseil présidentiel de transition. Or, en Haïti, on sait très bien, l'exécutif est dual. Il y a un Premier ministre et un président de la République. Même s'il y a un Conseil présidentiel de transition, mais il y a un président qui exerce cette fonction, il y a un certain nombre de pouvoirs à partager entre les deux organes de l'exécutif, ce que n'a jamais voulu faire Gary Conille, malgré les efforts du Conseil présidentiel de transition. Je pense que la goutte d'eau, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est quand le Conseil présidentiel de transition a souhaité un remaniement ministériel, eh bien, cette demande a été rejetée par Gary Conille.
Oui, c'est ça, il y avait des discussions en cours sur un remaniement autour de certains postes clés, de portefeuilles clés. Qu'est-ce que souhaite exactement le Conseil présidentiel de transition au sujet du gouvernement ?
Le Conseil présidentiel de transition s'est rendu compte qu'il a commis une erreur en confiant les principaux postes régaliens à Gary Conille, les affaires étrangères, l'économie, les finances, l'intérieur, la planification et la justice. Le Conseil présidentiel était complètement dénudé, sans pouvoir, c'est-à-dire avec, comme disait le général, inaugurer les chrysanthèmes. Mais il se retrouve maintenant, il a compris le Conseil présidentiel de transition qu'il avait accordé trop de pouvoir à Gary Conille. Maintenant, il souhaite redistribuer et les espaces de pouvoir, ce à quoi Gary Conille s'opposait. Par exemple, le Conseil présidentiel voulait maintenant avoir le poste de ministre des Affaires étrangères, notamment quand il a observé comment celui qui exerçait le poste de la fonction de président de la République a été humilié par le ministre des Affaires étrangères ainsi que Gary Conille aux Nations Unies récemment. Donc, il a compris et qu'il voudrait rebattre les cartes pour deux raisons. Un, il faut donner des, et des, distribuer des postes de pouvoir aux alliés, c'est-à-dire les postes de directeur général, de direction générale, et nommer de nouveaux maires des collectivités territoriales et avoir aussi de nouveaux ministres. Donc il faudrait, pour le Conseil présidentiel de transition, il faudrait donc redessiner les nouveaux champs de pouvoir, ce à quoi Gary Conille s'opposait. Et Gary Conille, je pense, a fait aussi une interprétation de l'appropriation, ce qu'on peut appeler dans la politique haïtienne, du rapport de l'haïtien à l'étranger. Parce que tout pouvoir local, ne serait-ce qu'artificiel, construit sa légitimité non pas sur l'adhésion de la population au résultat, mais plutôt sur l'appui de l'international.
Et qu'est-ce qu'il va faire justement, Gary Conille, selon vous ? En théorie, il peut refuser de partir. Lui a rappelé dans une lettre hier que la procédure en cours était illégale. Est-ce qu'il existe une possibilité qu'il s'accroche à son poste et qu'Haïti se retrouve avec deux gouvernements ?
Non, il n'y a aucune possibilité pour lui de se maintenir parce qu'il n'a pas le soutien des alliés. Parce qu'il faut le souligner, le Conseil présidentiel de transition est fait de bruit de broc, des représentants des partis politiques, de la société civile. Ce sont eux qui soutiennent le Conseil présidentiel de transition. C'est le Conseil présidentiel de transition qui a nommé Gary Conille. Donc toute sa légitimité vient du Conseil. Or, maintenant, les secteurs du Conseil se sont désolidarisés de Gary Conille. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu de résultat, Gary Conille, depuis trois mois.
Donc, pas de possibilité pour lui, selon vous, de rester à son poste. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, parce que au moment même où on a appris que cette procédure politique était en cours, on a aussi entendu des menaces de gangs depuis quelques jours, là, des menaces qui visaient spécifiquement cette journée de lundi et la semaine qui débute. On a aussi vu un renforcement de la police haïtienne dans plusieurs zones de Port-au-Prince. C'est une coïncidence, selon vous ?
C'est peut-être pas une coïncidence, mais les gangs trouvent une situation très favorable pour eux, puisque depuis l'arrivée de Gary Conille, il faut le souligner, les gangs gagnent du terrain. Ils ont conquis Gressier, Solino, Léogane. Puis il faut le rappeler, le massacre de Ponsondé, avec plus de 115 morts le 6 octobre dernier, est à une totale impunité. Et sans également, pour Gary Conille, la possibilité de proposer un plan de sécurité. Donc il y a un manque de résultats. Il y a aussi une lassitude de la population locale qui est abandonnée à elle-même face aux attaques répétées des gangs, aux enlèvements. Les gangs enlèvent les gens chez eux depuis cette semaine à Port-au-Prince. Il y a une violence qui fait partie de la vie quotidienne des Haïtiens et qui sont obligés de fuir, puisque selon les chiffres de l'OIM, on est à plus de 700 000 personnes, dont plus de la moitié sont déplacées à l'intérieur d'Haïti. Et 83% des personnes déplacées selon l'OIM sont réfugiées selon les familles. Et malgré ces souffrances, le gouvernement n'a proposé, par exemple, aucune solution de relogement de ces populations. Donc il y a une absence de résultats. Et puis aussi, il y a une absence d'alliance, de lien avec les acteurs politiques locaux.
Merci beaucoup Jacques Nézy, docteur en sciences politiques, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Je rappelle le titre de votre livre qui va sortir dans quelques jours aux éditions Gouttelettres, Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables. Voilà donc pour cette situation politique en Haïti et cette cérémonie d'investiture d'un nouveau Premier ministre qui est prévue tout à l'heure à 15h à Port-au-Prince. RFI, The World's Voices. On va parler maintenant des États-Unis, de la période de transition politique après l'élection de Donald Trump, élection triomphale. Les derniers résultats communiqués ce week-end le confirment et nous recevons pour en parler Laurie Kenton, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par dire un mot peut-être des nominations récentes parce que la future administration Trump commence à prendre forme. Il y a eu notamment ce choix de celui qui mènera la politique migratoire. Il s'appelle Tom Homan. C'est vraiment un tenant de la ligne dure.
Oui, et c'était tout à fait envisageable qu'il reconduise celui qui était en charge déjà la dernière fois. Ses promesses de campagne étaient de cette ordre-là. Et donc, ce n'est pas du tout surprenant qu'on ait quelqu'un qui connaît déjà un peu le dossier, qui a déclaré également que ce serait plus sélectif que ce qu'on redoute. On redoute des reconduites à la frontière massives et indiscriminées, les femmes, les enfants, etc. Là, lui, ce qu'il semble dire, c'est qu'ils vont d'abord se concentrer sur les criminels les plus endurcis, et donc que ce ne sera pas forcément aussi caricatural que ce qu'on a bien voulu dire. On verra ce qu'il en est, mais ce n'est pas du tout surprenant qu'il fasse des promesses de campagne et qu'il essaye ensuite de nommer des gens qui pourraient les mettre en œuvre. Ensuite, ce qui pose question, c'est la volonté, en tout cas le projet de contourner l'approbation du Sénat pour cette nomination et les autres nominations. Là, ça pose d'autres questions qui sont plus d'ordre constitutionnel.
On va peut-être dire un mot de la méthode, parce qu'il y a les choix de personnes et puis il y a la manière dont se déroulent ces nominations. Mmh. Donc, il a demandé, Donald Trump, au Sénat de le dispenser de son approbation. Ça, c'est une disposition qui existe légalement. Elle sert à quoi ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est la norme. La norme, c'est que le président peut nommer des gens, mais qui doivent être confirmés par le Sénat. Ça, c'est dans la Constitution, donc on ne peut pas en faire l'économie. Il y a le consentement du Sénat qui est requis pour les postes d'ambassadeurs, les traités, les juges et les nominations des ministres et des directeurs des grandes agences fédérales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Il y a une possibilité de contourner cette règle quand une nomination s'impose et que le Congrès ne siège pas. Donc, entre deux sessions du Congrès, il peut y avoir une forme de nomination sans le Congrès. Mais enfin bon, c'est dans des circonstances où il n'y a pas de Congrès. Là, le Congrès se réunit à partir du 3 janvier. Donc, comme Trump sera investi à partir du 20 janvier, le Congrès sera en séance. Et donc, l'ordre normal des choses, c'est qu'ils soumettent ces nominations et que le Congrès se prononce dessus. Donc, il y a peut-être une certaine fébrilité sur un certain nombre de nominations et voudrait contourner la façon normale de procéder.
Pourtant, les Républicains sont majoritaires au Sénat.
Oui, mais alors, les Républicains sont majoritaires au Sénat de peu, et ils sont pas tous le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est-à-dire qu'on en a au moins deux, Susan Collins, la sénatrice du Maine, et Lisa, dont j'ai oublié le nom, en Alaska, Murkowski, qui sont pas trop trumpistes, et donc qui pourraient s'opposer aux nominations les plus baroques, on va dire, et qui l'ont fait de toute façon il y a 4 ans. Donc, c'est pas parce qu'on est républicain qu'on est forcément trumpiste. C'est très largement le cas maintenant, mais ça n'est pas totalement automatique.
Donc, ça pourrait être un moyen de contourner, enfin de limiter les risques, si je comprends bien ce que vous nous dites, Laurie Kenton. On vous reçoit aussi pour parler des scores assez inattendus de Donald Trump la semaine dernière à la présidentielle et puis à ses élections au Congrès. On sait depuis ce week-end qu'il a gagné dans les 7 swing states alors qu'il n'a parlé qu'à sa base pendant toute la campagne. Est-ce qu'il se renforce auprès de son électorat, c'est-à-dire est-ce qu'il a réussi à convaincre des électeurs qui avant s'abstenaient, ou est-ce qu'il élargit aussi les profils des personnes qui votent pour lui ?
Eh bien, un peu de tout, c'est-à-dire qu'il a progressé chez les primo-votants, et les primo-votants, généralement, sont essentiellement des jeunes, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas l'âge de voter la dernière fois, mais il y a aussi dans les primo-votants des gens qui n'avaient jamais voté avant, et puis qui se réveillent sur le tard et qui se disent « Tiens, Trump est différent, je vais voter pour lui alors que je n'ai jamais voté de ma vie ». En 2016, on en avait vu beaucoup, il avait beaucoup parlé à tous ces gens qui sont en fait des déçus de la politique. Donc, chez ces primo-votants, il est très loin devant, alors que, enfin, il a énormément progressé, alors que c'est plutôt un terrain favorable aux démocrates. Donc, il a progressé dans pas mal de catégories assez différentes, et notamment des catégories qui sont historiquement favorables aux démocrates ou qui, là, disons de manière plutôt conjoncturelle, auraient dû, comme les femmes, être sensibles à l'argument des démocrates sur l'avortement.
Et ça n'est pas ce qui s'est passé.
Pardon ?
Ça n'est pas ce qui s'est passé.
Non. Il y a eu vraiment un problème de communication des démocrates et leur message n'a pas porté sur un certain nombre de choses. Le fait de dire que Trump était un fasciste, alors ça n'a absolument eu aucun effet. Alors le problème, c'est que sur l'avortement, en fait, le fait de voter pour Kamala Harris n'aurait pas changé forcément grand-chose, parce que Kamala Harris ne peut pas rétablir le droit à l'avortement en claquant des doigts. Donc peut-être qu'un certain nombre de gens se sont dit que de toute façon, ça n'avait pas forcément d'effet. Et puis surtout, les questions... Alors il y a deux choses. Il y a les questions d'inflation et les questions d'immigration qui ont beaucoup plus compté.
Alors, vous nous avez parlé des femmes. Il y a ces thèmes-là sur lesquels il a été jugé manifestement plus crédible. Ce sont quand même encore surtout des hommes qui votent pour lui. Mais les études publiées depuis la semaine dernière montrent qu'il n'y a plus seulement des hommes blancs et plus seulement des hommes plutôt vieux. Il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais vous entendre sur ce point, sur ce qu'il a réussi à ouvrir de ce côté-là.
Il a réussi à parler aux minorités que les démocrates croyaient acquises à leur cause. Et ça n'est absolument pas le cas. Donc les démocrates vont devoir réfléchir à comment on parle, non pas aux minorités, mais aux hommes en général. Et puis aux classes populaires qui se sont complètement désolidarisées d'un parti démocrate qu'ils voient comme extrémiste et déconnecté de leur réalité quotidienne. Notamment sur les questions, disons, politiquement correctes, woke et ce genre de choses. À tort ou à raison, l'image de marque des démocrates est très dénaturée, même si la campagne de Kamala Harris a été très loin de la caricature que l'on peut faire là-dessus. Donc il y a un gros travail à faire sur la communication du Parti démocrate avec son électorat.
Merci beaucoup Laurie Kenton d'avoir été en ligne avec nous, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Merci.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Alex Leveillé, pour parler de cette visite du ministre délégué en charge des Outre-mer françaises pour 4 jours en Martinique.
Avec forcément de nombreuses réponses attendues par les acteurs du dossier de la vie chère. Corinne Jean-Joseph de Martinique, la première.
François-Noël Buffet devrait d'abord confirmer le protocole d'objectifs et de moyens signé le 16 octobre dernier par la grande distribution, le préfet et les élus locaux. Protocole qui prévoit l'exonération de la TVA et de l'octroi de mer sur 6000 produits. Mais voilà, la baisse annoncée de 20% en moyenne le 1er janvier prochain semble inatteignable sans une compensation financière forte de l'État. Certains parlementaires estiment que sans continuité territoriale sur le fret maritime, c'est-à-dire que sans le financement par l'État des frais des conteneurs de produits alimentaires, la baisse ne sera que de 8% à la caisse. L'importation des produits de première nécessité étant l'une des causes de la vie chère, les frais d'approche représentent 67% du surcoût de l'alimentaire importé. Il y a donc fort à parier que François-Noël Buffet apporte en revanche des solutions et des moyens pour l'aide à la mise en place d'une autosuffisance alimentaire. Des réponses pour calmer la colère des Martiniquais face à des prix jugés par tous inacceptables. Cette visite ministérielle sera donc un premier pas dans la lutte contre la vie chère.
Et on reste en Martinique avec cette action de sensibilisation qui a eu lieu hier dans le sud de l'île pour dire non à l'implantation de nouveaux centres commerciaux. Christine Cupit.
Gare routière de Carrère à Ducos, prise de parole de Garcin Malsa avant le départ du convoi contre les inégalités. Plusieurs dizaines de véhicules font partie du cortège. Premier arrêt à quelques mètres du rond-point de Carrère où il est prévu l'implantation d'un centre commercial. Un collectif de riverains s'oppose à ce projet. Marcel Lienafa.
L'impact économique, c'est vis-à-vis des petits commerces en fait, qui sont à Ducos et ça va les impacter directement puisque c'est leur clientèle qui va être récupérée et à terme, c'est leur mort définitive en fait.
Commune du Saint-Esprit, quartier L'Avenir, la problématique est la même qu'à Ducos avec un projet de construction d'un centre commercial dans une zone boisée et protégée. Miguel Duval.
Il y a un manque de terrain pour la canne. Il y a des champs de canne à côté, pourquoi ne pas justement créer de l'expansion en plateau de la canne plutôt que de faire cette destruction.
Les jeunes agriculteurs aussi font partie du convoi. Ils considèrent qu'un centre commercial de plus, c'est moins d'emplois pour le secteur agricole. Géric Vénitus.
Nous, on a besoin de terre et on ne nous donne pas de terre. Pour nous, les agriculteurs, pour augmenter la production locale.
Après le Saint-Esprit, direction le Vauclin.
Comment on peut dire que les gens qui sont entrés pour aller derrière vous là, qu'est-ce que ce commerce-là?
Les travaux pour le futur centre commercial du Vauclin ont déjà bien avancé, situé juste à l'entrée du bourg, en face de la station.
Et c'est la fin de cette édition. Excellente fin de journée à tous.
Merci Alex Léveillé et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 11h30, temps universel. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes maintenant de vive voix. Pascal Paradou et son invité s'interrogent sur ce que les dictionnaires racontent de nos sociétés. Très bonne journée à tous.